J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Le projet de loi des finances pour l'année 2025 présenté par la Première ministre Judith Suminwa a été jugé recevable par les députés nationaux ce vendredi 1er novembre 2024. Ce budget pour l'exercice 2025 s'élève à environ 18 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 21,6% par rapport à l'exercice précédent. Dans ce budget, on note une augmentation des crédits alloués aux investissements et des fonds destinés à des secteurs tels que la sécurité, l'agriculture, pêche, élevage, mais aussi les développements ruraux. Et lors du débat général qui a suivi la présentation de ces projets des finances pour l'année 2025, bon nombre de députés nationaux ont exprimé leurs préoccupations sur la viabilité de ce projet et leurs recettes projetées ainsi qu'à la politique salariale du gouvernement. Que pensez-vous de ce projet de loi des finances 2025 et dans quelle mesure ce budget peut-il contribuer au développement de la RDC? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs pour ici écrire à l'adresse PIA radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les zones 9706-80-79. Mimi Kindou est à la mise en nom de ce magazine à Julie Feza Bongoda sur la réalisation et la coordination. Jonathan Fonani est dans l'équipe multimédia de ce magazine qui sera diffusé en direct sur les plateformes digitales de Radio Capi. Au micro, c'est Marcel Gomambala. Tout à tous et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081 99 77 800, par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Bienvenue sur nous, vous nous rejoignez sur la fréquence de la PIA, c'est votre magazine de chants citoyens, Parole aux auditeurs. Comme je le dis, nous allons parler de ce projet de loi de finances pour l'année 2025 présenté par la Première ministre Judith Suminwa et qui a été jugé recevable par les députés nationaux ce vendredi 1er novembre 2024. Et pour en parler, je ne suis pas seul dans ce studio, je reçois Michel Kifinda. Bonjour Michel.
Bonjour Marcel.
Vous êtes notre permanent au Parlement. Avec vous, on va essayer un peu de parler de ce projet, notamment de ce qui va être fait après que cela a été jugé recevable par les députés nationaux, mais également les grands plaisirs d'accueillir dans ces studios Matata Ponyo Mapon, député national et ancien Premier ministre. Bonjour Monsieur Matata Ponyo Mapon.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, je rappelle, si vous êtes intéressé, vous voulez intervenir, le numéro d'appel c'est les 09 706 80 79. Voilà, Michel, avant de retrouver notre invité Matata Ponyo Mapon, je commence par vous. Alors dites-nous, Michel, qu'est-ce qui va se passer après que ces projets de loi 2025 aient été jugés recevables par les députés nationaux?
Alors, après ce débat général qui a pris plus des 10 heures.
Mais il faut le dire, ça a commencé le 30 octobre, les jeudis. Et ça a fini aux petites heures du matin, autour de 2 heures, petites heures du vendredi au matin, oui.
Une bonne performance de travail d'une institution. Du coup, les députés qui déclarent recevable le projet de loi des finances 2025 vont devoir l'examiner en profondeur au niveau de la commission ECOFIN, la commission économique et financière, et ils devront avoir pratiquement 2 semaines de travaux, et pendant ce temps-là, les membres du gouvernement seront invités, y compris la première ministre, au niveau de la commission, pour éclairer la lanterne des députés. Mais comme le président Kamere l'avait souligné, les travaux seront aussi ouverts, notamment aux syndicalistes des différentes professions, pour essayer de faire le plaidoyer des secteurs qui leur concernent. Parce que comme vous le savez, le budget, c'est pratiquement la bible de la gouvernance de toute l'année qui se projette à l'horizon. En principe, tout ce qui va être effectué comme dépense devrait être inscrit déjà dans le budget 2025.
Voilà, mais il y a peut-être une idée pour que les auditeurs puissent avoir cette relation entre la reddition des comptes qu'on a parlé un moment au niveau du Parlement et à ces projets de loi de finances 2025.
Effectivement, la reddition des comptes, c'est en fait une évaluation qui est d'ailleurs une condition préalable pour examiner le budget. Donc le Parlement doit d'abord examiner, selon la LOFIP, la loi relative aux finances publiques, le Parlement doit évaluer l'exécution du budget de l'exercice clos. Ça veut j'allais dire, dans le contexte actuel, c'est le budget de 2023. Comment il a été exécuté par le gouvernement? Est-ce que le gouvernement a suivi à la loupe les orientations du budget tel que voté au Parlement? Vous savez, le budget, c'est une loi au même titre que toutes les autres lois et devrait être respectée de façon rigoureuse. Et les députés analysent d'abord la reddition de comptes. À partir des observations et des leçons tirées de la reddition de comptes, les députés vont devoir voter le budget de façon conséquente pour essayer de rencontrer les problèmes de nos populations. Et vous savez, il y a un autre aspect, c'est les vacances parlementaires. Vous savez, avant l'examen du budget, les députés ont 3 mois dans leur circonscription électorale. C'est pour s'imprégner de plus près des problèmes des populations congolaises. Et ces problèmes seront automatiquement intégrés dans le budget pour voir dans quelle mesure le gouvernement peut y apporter des solutions concrètes. Voilà.
Voilà, merci Michel. Vous êtes avec moi jusqu'à la fin de ce magazine. Avec vous, on va commenter ces sujets. Et je me tourne vers notre invité, Matata Ponyomapon. Nous l'avons dit, ce projet de loi de finances a suscité des préoccupations des députés. Il y a beaucoup qui ont parlé de ce budget et surtout de la capacité pour le gouvernement de matérialiser ces budgets. Et vous êtes parmi ceux qui ont intervenu. Vous avez insisté, si je me rappelle bien, sur la chaîne des dépenses. Il y a beaucoup de dépenses publiques qui se font hors de la chaîne publique, mais également la corruption. Alors, vous estimez que c'est d'abord un budget réaliste?
Écoutez, merci pour cette invitation. Et je pense que, si vous m'avez bien suivi, j'ai dit que mes critiques ne devraient pas s'inscrire dans une logique classique, dans une logique commune. Mais je voulais élever les débats pour inscrire mon intervention sur le plan philosophique et sur le plan spirituel. Étant donné que les classicismes dans lesquels nous sommes noyés, c'est-à-dire les juridismes, on amène le budget au Conseil des ministres, on amène le budget au Parlement, et on amène le budget à la présidence, on signe. Ça, c'est ce qu'on appelle un formalisme. Mais le budget, monsieur Marcel Ngombo, au-delà de ces chiffres, le budget communique un esprit de la population, une volonté de la population. Et pour de se voir améliorer des conditions dans lesquelles le peuple vit. Voyez-vous, et ça, c'est plus important. Michel, tout à l'heure, a dit que le budget, finalement, c'est une loi. Quand on dit une loi, la loi est au-dessus de tout le monde. Et une loi comme une loi budgétaire, lorsqu'elle est exécutée à plus de 50% en dehors de la chaîne, la dépense, qui elle-même constitue un élément de la loi, mais qu'est-ce que vaut ce budget? Voilà les questions philosophiques, les questions spirituelles. Et là, monsieur Marcel, laissez-moi vous dire, il y a une relation scientifique des causes à effet entre la corruption et le développement, qui se réalise au travers du budget. Il y a une relation des causes à effet entre la stabilité du cadre macroéconomique et le progrès. Parce que le plus stable crée la confiance. Le prix stable améliore les perspectives, la lecture de l'avenir. Et les investissements ne se font que dans la durée. Et lorsque vous avez un budget qui est exécuté à plus de 50% en dehors de la loi, quelle est la crédibilité de ce budget? Même s'il est adopté, même s'il est signé et tout ça, mais quelle est la crédibilité de ce budget? Monsieur Michel a dit, on ne peut pas discuter d'un budget lorsqu'on n'a pas fait la révision des comptes. C'est pour dire, nous regardons les erreurs que nous avons commises par le passé, pour ne pas les répéter. Mais si on doit répéter les mêmes erreurs, si le budget que nous sommes en train d'examiner doit être exécuté à plus de 50% en dehors, mais c'est l'irrespect de la population. Il n'y a pas de spiritualité dans ces choses. Vous savez, monsieur Marcel, le leadership, la bonne gouvernance, depuis Platon, depuis Socrate, c'est fondé sur les vertus, sur les valeurs. Vous ne pouvez pas avoir un budget qui est fondé sur la corruption. C'est en contradiction avec la spiritualité même du budget, l'essence philosophique d'un budget. Quand Dieu dit la justice élève les nations, et le président de la République dit notre justice est malade, mais la justice, ça fait partie des institutions clés de la République. Mais vous savez, il y a une relation scientifique des causes à effet entre la qualité des institutions et le développement qui est assuré par le budget. Mais comment un budget peut être exécuté spirituellement, philosophiquement?
Donc vous estimez aussi longtemps qu'on ne va pas respecter la chaîne des dépenses, aussi longtemps que la corruption va commencer à battre son plein, ce budget n'est qu'un budget vide, que rien ne va se passer.
Mais justement, monsieur Marcel, voilà pourquoi je me suis dit, je sors de cette analyse classique et classiciste dans laquelle les Congolais sont habitués, voyez-vous. Parce que, dites-moi, lorsque vous avez un budget de 18 milliards, vous ne savez pas acheter 4 avions. Acheté par un budget de 5 milliards. Mais il y a un problème. Il faut parler à l'université pour qu'on comprenne que l'argent est détourné massivement. Vous avez un budget de 18 milliards. Vous ne savez pas acheter 500 bus Transco qui ont été achetés par un budget de 5 milliards. Ça veut dire qu'il y a détournement massif de fonds. Voilà pourquoi j'ai dénoncé ce qui est considéré aujourd'hui comme un sport national, le détournement de fonds publics. Un budget qui est à 50% détourné. Mais ce n'est pas un budget.
Vous avez été vous-même un Premier ministre. Les gens peuvent se poser la question. Est-ce qu'à votre époque, vous avez essayé de respecter la chaîne des dépenses?
Même quand j'étais Premier ministre, toutes les dépenses étaient strictement... Vous savez, monsieur Marcel, avant de vous faire respecter, respectez-vous vous-même. Les chiffres sont là. Qu'est-ce qui explique que ce budget de 5 milliards de dollars payait les salaires le 15? Les salaires qui sont payés aujourd'hui à l'improviste.
Il y avait bonne gouvernance.
Il y avait la bonne gouvernance, il y avait un leadership de qualité. Le binôme magique, M. Marcel, c'est le leadership, c'est la bonne gouvernance. Voilà pourquoi ce petit budget, parce qu'il était utilisé totalement au profit du peuple, et ce budget permettait de payer les salaires des gens.
Voilà, avant d'ouvrir le standard pour avoir les réactions des auditeurs, peut-être un commentaire par rapport à cet accroissement du budget, et notamment dans certains secteurs comme l'agriculture, pêche et élevage, le développement rural, également la sécurité.
Je l'ai dit, M. Marcel, et je le répète, ce qui compte, ce n'est pas l'accroissement du budget. Ce qui compte, c'est la qualité d'exécution de ce budget. Ce qui compte, ce n'est pas les 48% du budget réservé aux investissements. Ce qui compte, c'est de savoir si réellement ces fonds-là vont aller dans les investissements. Là, s'ils sont tous détournés, ça ne servira à rien. Autant avoir un budget de 15 milliards, de 10 milliards, mais qui est au profit du peuple. J'ai fait les études des sciences économiques. J'enseigne à l'université. La hauteur d'un budget, ce n'est pas indéterminant. Ce qui compte, c'est la qualité de l'exécution du budget, quelle que soit sa hauteur. Voilà.
Voilà, on revient vous, Michel, rapidement, avant d'ouvrir le standard.
Oui, honorable monsieur Matata, peut-être une petite relance. En même temps, à votre époque, quand vous étiez Premier ministre, monsieur Luzolo Bambi dénonçait que 15 milliards de dollars échappaient chaque année au trésor public. Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait quand même un problème de coulage des recettes.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, Michel. Quand vous regardez les taux de pression fiscale de notre pays, ils tournent à un niveau qui est relativement très bas, aux environs de 14% taux de pression fiscale, contre une moyenne africaine qui tourne entre 20 et 24%. Contre une moyenne occidentale qui est au-delà des 40%. Voyez-vous, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la sous-mobilisation des recettes. Mais ça, c'est structurel. Parce que nous avons une corruption quasiment endémique. Et il y a une certaine sous-optimisation de la mobilisation des recettes. Mais ça, c'est structurel. Par rapport à quelque chose de conjoncturel que nous avons, la corruption endémique aujourd'hui, ça c'est conjoncturel, voyez-vous. Et ça affecte davantage les taux de pression fiscale.
Voilà, bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la PC, votre magazine des chances citoyens, parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de ce projet de loi de finances pour l'année 2025 présenté par la Première ministre Judith Suminois, qui a été jugé recevable par les députés nationaux ce vendredi 1er novembre 2024. Si vous voulez réagir, vous pouvez nous appeler au 09 706 80 79. J'ai dit également merci de nous suivre en direct sur les plateformes digitales de Radio Capi, à savoir Facebook, YouTube et X. Voilà, on revient tout à l'heure à notre invité, Matata Pognon, pour avoir les réactions des auditeurs. Mais j'ai oublié de rappeler le numéro d'appel, je pense que je l'ai fou, j'ai oublié, je ne sais plus, mais c'est 09 76 80 79.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Voilà, nous avons Mosbissimoa qui nous appelle depuis Bukavu et Franck qui est à Vienne en Autriche également et Eric Ri qui nous appelle depuis Kalemi. On y va avec Mosbissimoa depuis Bukavu. Vous avez la parole à Mosbissimoa.
Oui, bonjour Martin, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi, bonjour aux auditeurs présentement au studio. En fait, nous avons tous suivi que le 2025 a été jugé recevable au niveau de l'Assemblée nationale et nous avons suivi les débats que les députés ont menés par rapport à ce budget. Mais le problème au Congo, ce n'est pas les chiffres. Parce que nous devons le rappeler, depuis des décennies, on a toujours connu des budgets en RDC. Et le problème réside au niveau de l'exécution du budget, secteur par secteur, en faveur de la population. Je tiens à vous informer que la plupart des fois, il y a des projets qui sont budgétisés dans des budgets, et il arrive des fois qu'on décaisse l'argent. Mais ces projets ne sont exécutés nulle part sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et cela depuis même l'époque du Premier ministre Matata, qui est présentement au studio. On a toujours vécu beaucoup de projets planifiés dans des budgets que nous avons toujours connus. On décaisse l'argent et cet argent est partagé entre politiques au pouvoir, au détriment du peuple congolais. C'est là que je dois revenir à la justice. On a évoqué la question de la justice. Je suis totalement d'accord. Quand la justice est malade, au pays, rien ne peut marcher. Parce que c'est elle qui devait nous aider à traquer tous ces escrocs qui sont souvent dans notre gouvernement et qui détournent l'argent du gouvernement. Mais je ne sais pas alors qui va traquer qui. Parce que dernièrement, nous avons suivi la question de Nicolas Kazadi. Mais le chef de l'État a déclaré que c'est le ministre le meilleur, le ministre des Finances le meilleur, qui l'a vécu depuis que la RDC est appelée RDC. Vous voyez qu'on dirait que nous serions gouvernés par des voleurs qui crient aux voleurs. Et c'est un problème sérieux.
Voilà, merci. Merci. Amos, laissez-moi. Amos, rapidement, parce qu'il y a d'autres qui aimeraient également intervenir rapidement. Vous avez, qu'est-ce que vous voulez bien ajouter?
Je voulais juste dire en suivant qu'avec le budget passé, on devrait d'abord se poser la question, ce budget a été exécuté, qu'est-ce que la population a gagné dans le budget passé? Parce qu'on nous a chanté qu'on a quitté de 5 milliards à 16 milliards. Mais au sein de l'opinion, rien n'a changé. C'est la population qui a continué
voilà,
à
souffrir. Voilà, merci Amos Bissimoa. Merci Amos Bissimoa. Vous avez insisté aussi longtemps qu'il n'y aura pas une justice qui réprime tous les auteurs des détournements et que ces budgets seront réalisés sans respecter les normes, notamment pour ceux qui lâchent des dépenses. Rien ne marchera. Merci Amos Bissimoa d'avoir appelé depuis Bukavu. On y va hors de nos frontières pour accorder la parole à Franck qui nous appelle depuis Vienne en Autriche. Franck, vous avez la parole.
Oui, bonjour à vos studios, bonjour aux invités. Je suis en train de les suivre en plein déplacement. Je crois personnellement que la RDC comme pays, comme État, n'a pas assez de chance. Nous parlons parfois, nous argumentons, mais au demeurant, si on doit se mettre à analyser ce qui s'est fait par rapport à ce qui est dit, on est en train de faire du surplace. Malheureusement, la politique chez nous n'est comprise que comme la conception des hautes toits de là que je m'y mets. Le même qui peuvent avoir détruit, qui peuvent avoir détruit hier, se font passer pour des donneurs de leçons et ceux qui détruisent aujourd'hui se feront pour des moralistes pour demain. Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Qu'on vote 5 milliards, qu'on vote 18 milliards, qu'on vote 20 ou 30, tant que le peuple ne se retrouve pas, ça ne sert à rien. Qu'on vote autant de milliards, 100 milliards ou 200 milliards, mais tant que ça va se gérer tel qu'on vient de le voir, avec des dépassements au-delà de 50%, de 100%, seulement des caissements en mode d'urgence, sans se soumettre aux lois qui doivent nous régir, on n'ira pas. Et c'est seulement un budget qui n'est là que pour les institutions, la présidence, le parlement et l'exécutif. On ne va pas penser aux médecins, on ne va pas penser aux enseignants, aux magistrats et aux autres. 4 mois après, vous allez revoir qu'il y aura encore des deux ici et là. Dans l'entretemps, au niveau du parlement, on va nous bourrer des oreilles avec des arguments 18 millions, 20 millions. Et je crois que c'est au peuple congolais de se lever et se remettre à sa place. Parce que de plus en plus, c'est lui qui perd. Et il peut faire confiance à tel aujourd'hui, mais après, quand il sera aux affaires, il cherche aussi à récupérer les carpes d'hier.
Alors, justement, Franck, s'il vous plaît, pour avancer, on n'arrête pas de le dire en RDC, c'est un problème d'hommes, c'est un problème de mauvaise gouvernance. Et là, par exemple, vous évoquez que ces budgets, ne pourraient être réalistes que si on essaie de respecter le nombre pour tout ce qui est lié aux dépenses publiques de l'État. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut rapidement faire pour que les choses puissent changer? Vous avez, par exemple, suivi notre invité, Matata Ponyo Mapon, honorable, député national, également c'est un premier ministre qui a parlé, aussi longtemps que la chaîne des dépenses ne sera pas respectée, aussi longtemps qu'il y aura la corruption qui n'arrête pas de miner la classe politique congolaise, surtout le gestionnaire de ce pays, rien ne marchera. Vous pensez que ça peut être une des solutions?
Oui, mais mon cher ami Marcel, je crois que la réponse saute déjà sur nos lèvres. Oui. Quelle est cette société d'or qui peut fonctionner sur base du désordre? Pour se développer, on doit s'appuyer, on doit se référer, on doit se soumettre au texte, parce que c'est la justice qui élève une nation. Mais dans un pays où la justice est mise à l'arrière-pied, où tout le monde peut bafouer, tout le monde peut ignorer, on va se développer comment sans la culture de soumission à nos textes. Voilà. Il faut commencer par là.
Voilà,
on
merci.
Doit aller chercher des alibis ici et là, changer, alors que les textes en vigueur, on ne les respecte pas. Donc, il faut commencer par respecter le texte qui nous régisse. C'est après seulement qu'on pourra aller.
Et voilà, merci beaucoup.
On va parler, mais on restera encore. On reviendra encore au mois de mai.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé depuis Vienne en Autriche. Nous avons Eric qui nous appelle depuis Calémie, si on rentrait donc ici au pays. Eric, vous avez la parole, mais j'aimerais qu'on puisse avancer. Vous avez suivi ceux qui vous ont précédé, qui ont dit que généralement c'est devenu comme un formalisme dans ce pays. Lorsqu'on présente le budget, il faut arrêter avec cette façon de faire les choses. Vous avez certainement également suivi ce projet de loi de finances pour l'année 2025. Qu'est-ce que vous avez à dire pour que cela puisse être matérialisé?
Merci beaucoup, Marcel, pour cet accord, pour la parole accordée. Je salue le Premier ministre honorable Matata Ponyo. Mais je voudrais aussi signaler que ça tombe bien parce que j'ai toujours le ministre honorable Matata Ponyo, s'il peut le permettre comme ça, il entre en contact avec moi comme conseiller communal. Revenir à votre préoccupation, je trouve que les budgets le projet de loi de finances est évalué à 18 milliards de dollars américains. Quand vous prenez à l'époque de Joseph Kabila, les budgets étaient à hauteur de...
Vous n'êtes plus en ligne, Eric Herry, depuis Calémie, dommage. Avant de revenir à notre invité, je m'en vais lire rapidement cette réaction de Guillaume depuis Goma. Ce budget qui s'élève à 18 milliards de dollars américains avec une augmentation de 21,6% est salué. Une augmentation qui suscite l'espoir, un chiffre significatif s'il est réaliste et bien orienté dans chaque secteur ciblé de 5 milliards à 18 milliards aujourd'hui. Pourquoi les pays ne décollent pas? Pourquoi pas d'impact visible et palpable? Que fait réellement le gouvernement de mon pays lors d'un mandat quinquennal? J'ai l'impression que les différents budgets votés par les parlements congolais servent à construire d'autres pays au monde et enrichir ceux qui sont aux commandes de ces pays. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir député, sénateur, ministre et gouverneur. Pour devenir millionnaire, il suffit d'y faire un pas. Vous sortez richissime. 64 ans pour l'indépendance, un autre Lumumba n'est pas né au Congo. Un autre Mobutu pour la défense de l'unité nationale n'est pas né au Congo. Les mêmes visages qui reviennent au poste clé et font tourner les pays en rond. Il n'y a pas une nouvelle intelligence pour orienter et guérir les vrais maux qui rendent ce pays. Le peuple souverain continue à croupir dans la misère et la guerre sans cesse. Je ne comprends pas les dirigeants congolais. À Goma, par exemple, il arrive des fois où s'approvisionnant en eau devient casse-tête et pourtant la vie s'étend jusqu'au lac qui vole là, mais pas d'eau. Bordeaux, les empêchants, les gens. Voilà, ça c'est Guillaume depuis Goma. Vous avez été nombreux à réagir sur la page Facebook. Pas aux auditeurs, on ne pourra pas lire toutes vos réactions, mais nous vous disons merci. Honorable Bematata Ponyomapon, vous avez suivi les interventions des uns et des autres. Déjà une réaction par rapport à cela.
Oui, cher Marcel, vous avez tout à fait raison, tout comme ceux qui sont intervenus, notamment M. Amos Bissimoy, qui est revenu sur la question de la justice. Comme je l'ai dit, la justice élève les nations. Pourquoi l'injustice ne peut rien contribuer, même si vous avez un budget très élevé? Un, s'il y a des détournements massifs, comme c'est le cas aujourd'hui, personne n'est interpellé. Ça veut dire que il y a encouragement aux autres de pouvoir détourner l'argent. Et finalement, vous allez vous retrouver avec un budget qui représente en réalité les tiers, si pas la moitié, ou peut-être un cinquième de ce que vous avez voté au budget. D'où le caractère philosophique et spirituel d'un tel budget. Et donc, M. Bissimoy a tout à fait raison de dire que, bon, voilà, même à mon époque, quand j'étais Premier ministre, parce qu'il a soulevé cette question, il y avait toujours des détournements. Mais c'était à quel niveau? Les détournements, il y en a même en Occident, il y en a. Mais quel est la hauteur de ces détournements? Parce que maintenant, on ne vole plus en milliers de dollars. Ça devient maintenant en centaines de millions de dollars. Tous les problèmes est là. Donc, je suis tout à fait d'accord avec M. Bissimoy. La justice est l'une des principales institutions du pays. Il y a une théorie économique qui met la relation entre les institutions et le développement. James Robinson, Douglas Norse, Johnson et Chimuglu. Et c'est une relation scientifique. Et la justice constitue l'une des principales institutions qui accompagne le progrès, qui accompagne l'exécution du budget. Et le président de la République a dit que la justice est malade. Et donc cette justice n'est pas à mesure d'accompagner le budget. Donc je suis tout à fait d'accord avec M. Bissimoy à mon salon. M. Franck, qui intervient à partir de Vienne en Autriche, il dit que le pays n'a pas de chance. Non, le pays a toutes ses chances, mais ce sont des hommes. Et des femmes.
Justement, beaucoup de Congolais le disent parce qu'ils sont ils sont déçus de politiciens congolais. Lorsqu'on n'est pas aux affaires, on est un bon théoricien, mais une fois arrivé aux affaires, on change de...
Monsieur Marcel, je suis aussi Congolais de père et de mère. J'ai été aux affaires, au ministère des Finances. J'ai fait 6 mois. J'ai trouvé 3 mois de retard de salaire. Quand je suis parti, c'était 0 mois de retard de salaire. J'ai fait la bancarisation de la paye. Je suis Congolais. On m'a menacé même des morts. D'ici, vous bancarisez la paix, nous mettons cette ville à feu à sang. J'ai bancarisé. On perdait 10 millions de dollars par mois. On les a récupérés. Les gens qui étaient payés avec le retard de 3 mois ont commencé à être payés le 15. Il y a même un fonctionnaire qui a dit, Monsieur Matata, vous exagérez parce que quand vous nous payez le 15, mais le 30, on n'a plus rien. Hein? Mais je suis Congolais. Le problème, c'est que le pays ne sera pas développé par les étrangers, ni par les fonds monétaires, ni par la Banque mondiale. C'est nous-mêmes. Cessons de dire que les Congolais n'ont pas de chance. C'est que nous ne sommes pas à mesure de pouvoir nous discipliner, d'avoir des valeurs, des vertus. Hein? Et ce pays ici, lorsque nous avons construit les bâtiments intelligents, on n'a pas emprunté l'argent à l'extérieur du pays. Lorsque nous avons acheté 4 avions Congo Airways, on n'a pas emprunté l'argent à l'extérieur du pays. Car lorsque nous avons acheté 500 bus neufs Mercedes de Transco, qui n'existent plus, mais on n'a pas emprunté l'argent à l'extérieur du pays. On nous fait aujourd'hui rabattre les oreilles avec 4 milliards de dollars empruntés de la Banque mondiale, du FMI, de la BAD, qui ont fait presque doubler la dette publique aujourd'hui, qui est passée de 5 milliards à près de 12 milliards, pour hypothéquer l'avenir des générations futures. Mais tout ça, c'est une question des valeurs, des questions de vertu. On ne peut pas être dans des fonctions publiques élevées avec des antivaleurs. Et donc ça, moi je pense que M. Franck, au lieu de dire que le pays n'a pas de chance, il faut dire que les Congolais doivent plutôt se discipliner. Comme il l'a dit, qu'est-ce que ça vaut un budget avec des détournements massifs? Vous avez des grèves aujourd'hui. Il y a des gens qui sont 6 mois d'impayement de salaire. Comment est-ce qu'on peut dire un ministre des Finances, il est excellent,
lorsqu'il laisse au pays des dettes publiques de 11 milliards de dollars? Comment on peut dire qu'on a un bon ministre des Finances lorsqu'il ne paye pas les salaires? Comment on peut dire qu'il y a un bon ministre des Finances lorsque les grèves sont à tout moment? Comment on peut dire qu'il y a un ministre des Finances lorsque les routes sont défoncées? Comment on peut dire qu'il y a un bon ministre des Finances lorsqu'on ne sait même pas acheter un avion? Mais écoutez, monsieur Marcel, mais ce type de définition-là n'existe pas dans les sciences économiques. L'économie, c'est une science. On définit un ministre des Finances par la stabilité du cadre macroéconomique, taux d'échange. On définit un ministre des Finances par la stabilité et la croissance. Quel est le niveau du taux d'inflation? Des grandes économies sont écrites. Lorsque le taux d'inflation est supérieur à 3%, ça commence à affecter la vigueur de l'économie. Lorsqu'il est au-dessus de 10%, il n'y a plus d'espoir du développement. Mais regardez, au mois d'octobre, nous sommes déjà à plus de 15%. Et on va vanter un budget lorsqu'on réalise des taux d'inflation de 15%.
Mais le Fonds monétaire international a inventé des performances.
Je vous invite à lire d'ici quelques semaines un article qui éventre les boas et qui démontre comment le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la BAD, accompagne le sous-développement. Les Fonds monétaires, la Banque mondiale sont complices du sous-développement dans ce pays. Comment est-ce qu'on peut accorder des milliards de dollars à un pays dont le détournement des fonds est massif? Mais ce n'est pas acceptable. Le peuple congolais doit comprendre que ces institutions comme les fonds monétaires, la Banque mondiale, sont en train d'accompagner le sous-développement dans ces pays.
Voilà, ça c'est une autre question, c'est celle qu'on pourra aborder dans les jours à venir. Michel, peut-être
Une petite précision, vous avez évoqué la construction de l'immeuble intelligent, mais vous êtes critiqué d'avoir surfacturé le coût de
par rapport aux autres bâtiments,
notamment celui de l'IGF.
Monsieur Michel, je l'ai dit parce que la question m'a été déjà posée. Je voudrais, de prime abord, dire que je suis le seul ministre des Finances, le seul Premier ministre, le seul responsable politique de haut niveau qui, après avoir exercé des fonctions aussi élevées, a écrit une lettre à l'inspection générale des finances pour dire « Auditez sur ma gestion de 7 ans au BCECO, de 26 mois aux finances et de 4 ans et 9 mois à la primature. » Cela fait plus de 3 ans que j'écris cette lettre et jusqu'aujourd'hui, après que M. Gilles Alinguité, qui, vous le savez, est impliqué dans beaucoup d'opérations de mauvaise gouvernance, quelle que soit la fonction qu'il occupe, a largué des missions des inspecteurs des finances dans l'ensemble du pays et qui n'ont rien récolté. Je suis fier de le dire aujourd'hui, parce que quand j'ai été ministre des Finances, quand je suis Premier ministre, j'ai pris la décision de ne pas prendre un dollar du trésor public. Parce que j'ai refusé d'adhérer à l'Union Sacrée, on m'a flanqué sur la tête des fameux dossiers Boukangalonzo. Vous savez, l'entreprise sud-africaine a déclaré sur papier, certifié par le service sud-africain, pour dire « Monsieur Matata n'a jamais détourné un dollar » et d'ailleurs, il est l'un des trois meilleurs dirigeants qu'on puisse avoir. Alors, revenons au bâtiment intelligent. Le processus des travaux a été lancé de manière transparente. Allez au BCECO, Monsieur Michel.
Non, pas de surfacturation.
Il n'y a pas de surfacturation. Je passe en ligne aujourd'hui. Je demande à l'inspection générale des finances. Je demande aux services spécialisés dans le domaine d'aller enquêter. Le dossier est au BCECO. Le BCECO est aujourd'hui sous tutelle du ministère des Finances. Qu'on aille enquêter et vous allez vous apercevoir.
Le BCECO que monsieur, vous avez dirigé monsieur, avant d'arriver au gouvernement.
Monsieur Michel, vous allez vous apercevoir que ce budget a été exécuté pour la construction de ces bâtiments dans les normes financières internationales. Rappelez-vous que ce bâtiment a été équipé. Et si on l'a appelé bâtiment intelligent, c'est parce que les journalistes, quand ils sont arrivés le jour de l'inauguration, se sont rendus compte que c'était un bâtiment qui était construit selon les normes internationales. Alors, les gens qui s'amusent à pouvoir critiquer M. Matata, ils doivent d'abord se regarder dans leurs propres yeux. Ils doivent se regarder. Lorsque vous êtes, vous, qui êtes censé faire les contrôles, vous êtes tout le temps impliqué dans des dossiers de mauvaise gouvernance qui sont étalés sur la place publique. Mais vous devez savoir vous taire.
Voilà, on va revenir au standard et, parce que le temps coule tellement vite. La Gérard qui nous appelle depuis Djougou, en Ituri. Il y a également Georges Kilangalanga qui est à Kisangani. Et puis, honorable Bitini Donatien. Je commence avec l'honorable Bitini Donatien. Honorable, vous avez la parole. Certainement, vous appelez de Kinshasa. Vous avez la parole, honorable Bitini.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Et j'interviens par rapport à l'invité qui est sur le plateau. pour parler en fait de l'état de l'économie du pays qui est désastreux et qui ne commence pas aujourd'hui. Nous l'avons entendu parler des cadres macroéconomiques et de la stabilité des francs congolais sur les marchés. Mais sa méthode, c'est une méthode qui nous a poussé à atteindre ces niveaux de gestion. Si ma mémoire est encore bonne, je me souviens que lui, pour maîtriser la stabilité du franc congolais sur les marchés, ce n'était pas une méthode qui a fait avancer les pays. Il a évité de payer les dettes intérieures, il a freiné la mise en circulation en masse de francs congolais. Or, ce n'est pas une bonne méthode. La bonne méthode est pour donner de la valeur à notre économie, donner de la valeur à notre franc congolais, stabiliser notre franc congolais, c'est de faire en sorte que l'État congolais mette des moyens en investissant dans le secteur de la production locale. Ce n'est pas ce que l'ancien Premier ministre Matata Ponou, qui est notre collègue et député national, peut nous dire qu'il a fait. Quels sont les investissements qu'il a fait dans le domaine de la production locale dans notre pays aujourd'hui qui pouvait maîtriser l'inflation sur les marchés? Le pays est dépendant aux importations. Donc c'est une mauvaise politique. Oui, il a raison parce qu'aujourd'hui il est observateur, il n'est plus dans la gestion des affaires publiques, mais il n'a pas raison. Moi je pensais qu'il serait mieux de prodiguer des conseils silencieusement à ceux qui dirigent aujourd'hui que de prendre la parole, parce que moi, d'après mes analyses, d'après mes observations, parce que nous sommes en train de vivre dans ce pays, nous savons comment il a géré la chose publique, nous savons comment est-ce que aujourd'hui nous avons des fonctionnaires fictifs. Aujourd'hui on est en train de démontrer combien de fonctionnaires qu'il a bancarisés, qui n'existent pas, qui brûlent, qui dilapident les fonds publics. Aujourd'hui nous savons que chez nous, au Grand Bandou, nous n'avons aucune entreprise. Il a dirigé ce pays pendant 5 ans. Il était d'abord le ministre des Finances, sans parler du BCECO, le ministre des Finances, le Premier ministre. Quels sont les projets qui pouvaient développer la province comme le Grand Bandundu? Et si on revient encore aux provinces, quand on a fait les découpages territoriales, et ils ont créé, ils ont dirigé le pays, est-ce qu'ils avaient prévu que quand nous dotons l'intérieur du pays des nouvelles entités
voilà, honorable Bitini, puisque le temps nous fait vraiment défaut, on va donner également à l'occasion à notre invité Matata Pono de réagir rapidement. Mais avant de lui accorder la parole, rapidement, je vous dis d'abord merci à honorable Bitini, de la Seigneur de voir un peu depuis Kinshasa, mais je m'en vais rapidement accorder la parole à Gérard, qui nous appelle des Djougo, et puis ça sera Georges qui, Langalang, et puis on va revenir à notre invité Matata Pono, Mapon. Gérard, vous êtes à Djougo, à Nitouri, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup pour m'accorder la parole, car ça fait plusieurs fois que je cherche à intervenir, mais ça ne réussit pas.
Et voilà, aujourd'hui ça marche, vous êtes en ligne.
En tout cas, très bien, très bien. le budget adopté, c'est bon, puisque selon l'invité du jour, l'honorable Matata Ponyo, que j'apprécie beaucoup, malgré notre Athènes relais qui nous donne l'émission entrecoupée ces derniers temps. Bon, selon l'utilisation que le gouvernement est un cœur ouvert, car le peuple d'abord est défini à, selon l'IDPS, savoir les besoins du peuple d'abord. Mais selon la PPRD, c'est l'action du peuple d'abord avant de réclamer au gouvernement. Alors, quelle définition pour le gouvernement actuel, je ne sais pas. Bon, ce que je peux dire, c'est d'abord il faut libérer la justice qui est prise à avantage.
Voilà, vous également, vous revenez sur la justice. Voilà, on en a, Gérard, s'il vous plaît, on a déjà parlé de la justice, tout le monde le dit, même l'invité l'a reconnu, même le président de la République l'a reconnu que notre justice est malade. Voilà, il y a des états généraux de la justice qui vont s'éteindre d'ici là. On espère que cette fois-ci, il y aura des recommandations qui vont te respecter. Merci, Gérard, d'avoir appelé depuis Djougou. En Ituri, on prend le tout dernier auditeur, c'est Georges Kilalanga qui nous appelle depuis Kisangani. Georges, vous avez la parole.
Oui, bonjour Monsieur Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, bonjour au grand Monsieur Matata Ponyo qui est un des modèles pour moi. Et quant au sujet, je partage l'analyse de l'honorable Matata Ponyo, pensant que le budget aujourd'hui c'est devenu une formalité. Une formalité alors qu'ailleurs c'est Le budget, c'est un instrument légal de gestion financière pour un pays. Alors, pour comment le budget peut contribuer au développement du pays, selon moi, je vais analyser ce sujet sur trois dimensions.
Rapidement, on a passé des temps, rapidement. Oui,
rapidement. Oui, le budget doit avoir d'abord une dimension stratégique, c'est-à-dire que les gros des investissements doivent être concentrés dans les domaines porteurs de croissance. Ce qui n'est pas le cas pour notre pays aujourd'hui, on ne sait pas la priorité, c'est toutes les années qu'on nous chante sécurité, on n'a jamais fini.
La deuxième dimension,
c'est la dimension normative, monsieur Marcel. Les budgets reposent sur des principes, notamment le principe d'autorisation budgétaire, c'est-à-dire que toutes les dépenses et toutes les recettes doivent être prévues par le budget, qui est une loi votée au Parlement. Il y a également le principe qu'on appelle le principe de sincérité budgétaire. Ce qui échappe à notre pays aujourd'hui, parce que vous avez le problème des déplacements.
C'est la dimension
sociale, monsieur Marcel.
Voilà, merci beaucoup. On a plus assez de temps. On a compris les trois dimensions. Merci, on n'a plus assez de temps. Ajoute Langalanga, merci d'avoir appelé depuis Kisangani. On va donner l'occasion à notre invité, Matata Pognon Mapon, de réagir notamment par rapport à votre collègue de l'Assemblée nationale, Onassia Bitine, qui a dit, mais vous êtes en train de parler, c'est beau tout ce que vous êtes en train de dire, vous avez été aux affaires. Ça n'a pas été vraiment le cas.
Merci beaucoup, Marcel, mais je suis très heureux de recevoir une question d'un collègue. Mais les sciences économiques ne constituent pas une science, on peut dire, qui n'a pas de base scientifique solide. L'économie est une science, même si c'est un art. Quand on regarde les statistiques, et ça ce n'est pas moi qui les dis, ce sont des grandes institutions internationales qui les disent, et disent que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la meilleure période de gestion macroéconomique qui a fait rêver les Congolais, qui a fait rêver le monde, c'est la période entre 2012 et 2016 où j'ai été aux affaires. Quand on dit cadre macroéconomique, ce sont les éléments d'appréciation scientifique. Le taux d'inflation et le taux de change sont deux agrégats importants. Quand vous avez le taux d'inflation, il a été en moyenne, au cours de cette période, en dessous de 3% pendant 5 ans, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais moi, je demande à l'honorable Bitini Donatien d'aller consulter son cours d'économie et ses statistiques. Deuxièmement, les taux d'échange. Monsieur Marcel, qui ne sait pas que quand M. Matata était aux affaires, les taux d'échange est resté pendant plus de 5 ans à 924 francs congolais le dollar. Qui ne le sait pas? Est-ce qu'il faut aller à l'université pour apprendre ça? Non. Voilà deux indicateurs clés du cadre macroéconomique qui, exceptionnellement, sont restés bas depuis 1960. Et quand je suis parti, tout le monde sait où se trouve les taux d'échange aujourd'hui, où se trouve les taux d'inflation aujourd'hui. L'autre élément clé, c'est le taux de croissance économique. Quand j'étais Premier ministre, on a réalisé un taux de croissance économique moyen de 7,7%. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à ces taux-là. Le taux de croissance économique, c'est le taux qui montre la création des richesses dans une nation. Le taux de croissance économique va de pair avec l'emploi, va de pair avec l'enrichissement de la population. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Mais finalement, quelle a été votre faiblesse pendant les quatre premiers mois? Je
suis en train de donner d'abord les éléments pour montrer à M. Bitini Donatien qu'il doit revoir l'appréciation de ses statistiques. Il parle des investissements. Mais le bâtiment intelligent, c'est un investissement. Congo Airways, c'est un investissement. Transco, c'est un investissement. Le bateau Kokolo, le bateau Gungu, parce qu'il est de Bandundu, le bateau Gungu, qui a été réhabilité, rénové. Mais tous ce sont des investissements. Les routes, qui ne sait pas que les routes de la capitale étaient pratiquement un modèle? Qui ne le sait pas? Aujourd'hui, nous n'avons plus de routes, mais ce sont des investissements. Donc, monsieur Donatien Bitini, chers collègues, je pense que l'économie à la fois une science, un art, vous invite à consulter davantage vos statistiques. L'autre intervenant, M. Gérard de Djougou,
Monsieur Gérard, de Djougou. Écoutez, merci pour les appréciations, parce qu'il a dit que j'ai fait un très bon travail, mais je le remercie pour ça.
Ça c'était plutôt Georges Kilangala.
Là, c'est Georges Kilangala.
Qui vous apprécie beaucoup.
Voilà. Alors, et Monsieur Gérard a dit que le budget doit être exécuté au profit du peuple. Il est revenu sur la justice, qui, selon Dieu, élève les nations. Vous pouvez vous imaginer, moi qui vous parle, pendant 3 ans et demi, la justice a violé la Constitution pendant 32 fois. La Cour constitutionnelle, la Cour de cassation. Parce que, M. Matata, nous devons tout faire pour qu'il ne devienne pas candidat président de la République. La Constitution violée 32 fois. Même le président du Sénat, Bahati Lukwebo, professeur de son état, il a dit, je n'ai rien à faire avec cette Constitution-là. Vous pouvez vous imaginer. Mais quand vous violez la Constitution, quand vous ne respectez pas la justice, mais Monsieur Marcel, il y a une relation de cause à effet entre la confiance et le développement. Les économistes ont dit, lorsque le degré de confiance est très élevé, il y a d'investissements qui arrivent, et il y a la croissance qui suit, et il y a la création de richesses qui arrive. Lorsque l'institution justice est malade, mais vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire des voyages, vous pouvez faire des conférences, vous pouvez faire des publicités, mais personne ne viendra investir.
On est vraiment à la fin de ce magazine. On retient les idées
bon,
qui nous
voilà, pour terminer,
rapidement, oui.
Georges de Kisangani.
Qui vous apprécie.
Et qui m'apprécie, qui dit que je suis un modèle pour lui. Je le remercie pour ça. Mais il a raison. Il a relevé ce que moi j'ai dit. Il a dit la dimension normative, la dimension stratégique, la dimension sincérité, la dimension sociale du budget. Mais c'est ça. Lorsqu'un budget, il est affecté par les détournements. Moi qui vous parle ici, vous savez que 1 900 000 dollars envoyés par la Banque africaine de développement pour des études que j'ai faites au gouvernement, mais c'est près de 2 millions de dollars ont été détournés par le gouvernement. Lorsque vous avez un budget qui ne respecte pas ces critères de sincérité, ces critères de même de justice sociale, mais vous ne pouvez pas avoir un budget. Or, nous sommes ici dans le cas d'un budget qui ne respecte aucun critère scientifique, aucun critère de l'art. Monsieur Marcel, Monsieur Michel, laissez-moi vous dire, je suis très d'accord avec Georges de Kisangani.
Voilà, merci beaucoup, honorable Matata Pougno. Je rappelle que vous êtes député national sur Promis, sur la RDC. C'était réellement un plaisir de vous recevoir dans ces studios. On espère vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup, monsieur Marcel. Merci beaucoup, monsieur Michel. Ça a été un grand plaisir. Je suis toujours disposé à pouvoir échanger avec le peuple congolais que j'aime beaucoup.
Voilà, Michel, on aura l'occasion peut-être de revenir aussi une autre fois avec vous. Ça fera aussi un grand plaisir.
Merci beaucoup, Marcel.
Voilà, fin de ce numéro de Parole aux Auditeurs de ces jours. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Mimi Kindou qui est à la mise en onde, à Jules Feza Bongonda qui l'a réalisé et coordonné, mais aussi à Jonathan Fanani et Nelson Nyombe de l'équipe multimédia. À la présentation, c'était Marcel Ngomombala. À très bientôt.